bonjour, la parole est à vous sur le thème de l'environnement, c'est Jean-Joseph Maglia. Donc, aujourd'hui j'ai choisi comme thème, puisque les élections municipales vont arriver, le rôle des élus dans, au niveau de la gestion communale. Voilà, en premier, donc je vais faire une émission en trois volets, et en premier, donc j'ai choisi d'interviewer Dominique, qui est élu dans une ville du département, sur, alors il est déjà élu depuis longtemps, donc il a une certaine expérience, et il va pouvoir nous parler un petit peu du rôle des élus par rapport à l'environnement. Voilà, Dominique, à toi la parole.
Dans une commune, l'environnement a énormément d'importance, on pourrait dire aujourd'hui, même c'est plutôt sur les territoires qu'on arrive à prendre en compte les vrais enjeux environnementaux, parce que s'il fallait compter sur l'État, ou voir au-delà, sur l'instance internationale, pour faire progresser les questions environnementales, je pense qu'on pourrait encore attendre beaucoup. En ce moment, surtout, il y a beaucoup de reculades, d'ailleurs qu'au niveau des élus territoriaux, que ce soit les communes ou les communautés de communes ou les communes d'agglomération, il y a vraiment une sensibilité au niveau des questions environnementales qui progresse constamment.
Juste un petit peu comme ça pour resituer, tu disais la commune finalement c'est le vrai niveau, c'est le niveau de proximité en tout cas. Donc parce que parfois la France n'a avancé au niveau législatif que sous la pression de l'Europe, hein, au niveau de la législation européenne. Il y a quand même des organismes qui sont à la taille nationale, qui sont là pour la protection de l'environnement, enfin, etc. Mais effectivement, le niveau d'action du citoyen, finalement, c'est par rapport à ses élus et le niveau communal, hein, communal et intercommunal.
C'est un bon degré d'action parce que ça touche à la vie quotidienne et les citoyens voient plus concrètement les questions qui peuvent se poser. Hein. Alors, au niveau communal, on parle mobilité, on parle fleurissement, biodiversité, alimentation ou énergie, déchets. On touche vraiment à tous les aspects des questions environnementales, qualité de l'air, qualité des sols.
Donc, par exemple, effectivement, beaucoup de communes gèrent des cantines. Donc, après, le plan de circulation à l'intérieur des villes dépend des communes. Donc, c'est à eux à définir, par exemple, s'ils mettent des sens interdits pour favoriser les vélos, pour favoriser le stationnement, créer des zones piétonnes. Donc, tout ça, c'est pas toujours simple à gérer par rapport aux citoyens.
Il y a des sujets qui sont assez faciles à prendre en compte parce qu'ils font l'unanimité, ça ne fait pas trop l'objet de contestation. Quand on parle de fleurissement, quand on parle de projets alimentaires de territoire, de biodiversité, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, quand on arrive dans les mobilités, là c'est beaucoup plus clivant parce qu'on a toujours cette culture de la bagnole en ville qui persiste. Et quand on veut développer les modes de déplacement doux, comme la marche, le vélo, là on a affaire à des résistances qui sont plus des résistances liées à l'habitude plus qu'à la logique.
Donc oui, effectivement. Après, donc l'alimentation, je disais, effectivement, parfois les villes gèrent des cantines scolaires. Après, au niveau de l'énergie, y a déjà tout ce qui concerne les bâtiments communaux. Hein, donc après, il y a des projets qu'on voit un peu fleurir, chaufferies biomasse hein, qui utilisent par exemple les plaquettes forestières. Après, d'autres communes se lancent dans des projets un petit peu plus ambitieux comme des réseaux chaleur qui servent à la fois pour les bâtiments communaux mais parfois aussi pour des maisons privées.
Oui, les réseaux de chaleur, aujourd'hui dans les Vosges, il y en a quand même un certain nombre entre ceux qui ont été réalisés et ceux qui sont en cours de réalisation. Hein. Le côté énergie, il est double. Hein. Il y a d'une part les économies d'énergie, c'est-à-dire effectivement... Pour ce qui concerne les communes, c'est surtout l'isolation, la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Et en parallèle, il y a la production d'énergie. Il y a une bonne partie du département des Vosges où on essaye d'avoir une autosuffisance énergétique, c'est-à-dire qu'à l'échéance 2050, C'est le cas du Scott des Vosges centrales. On produise toute l'énergie dont on a besoin sur le territoire. Ce qui veut dire que d'un côté, il faut produire des énergies avec des énergies renouvelables, et en parallèle, il faut faire de sérieuses économies d'énergie.
Oui, c'est là le problème d'ailleurs, puisque en fait, tout ce qui est aide aux économies d'énergie, souvent, sont plutôt à gestion nationale, plutôt que communale.
Oui, on est complètement tributaire on est en grande partie, on ne va pas dire complètement tributaire des décisions nationales, mais il y a quand même, quand il y a une volonté politique sur le territoire, on peut quand même faire avancer les choses, ne serait-ce comme sur la commune d'Agglo d'Épinal, où il y a quand même tout un service qui est en mesure d'apporter une aide maximale et objective à tous les habitants du territoire qui souhaitent rénover de manière énergétiquement leurs bâtiments, leurs habitations.
Oui, donc sur la com d'Agglo d'Épinal, il y a en particulier des aides sur l'utilisation des matériaux biosourcés, la fibre de bois ou des choses comme ça. Hein. Après, l'histoire de territoire à énergie positive, est-ce que tu peux développer un petit peu qu'est-ce que dans chaque commune, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites En fait, l'idée, c'est par exemple de produire l'énergie au plus près de là où elle est consommée. Hein. Donc, alors, les réseaux chaleur, c'est effectivement, ça fait partie de ça. Et puis, de partage d'investissements qui sont importants et qui sont difficilement supportables parfois de manière individuelle, pour une maison individuelle. Par contre, quand c'est des investissements qui sont partagés, on peut faire des plus gros investissements, des projets qui sont un peu différents, comme par exemple, je dirais presque l'idéal, ce serait la géothermie avec donc un peu ce qu'il fait dans le bâtiment de la com d'Agglo. Tu peux peut-être en parler deux minutes.
Oui, au niveau de la communauté d'agglomération, le bâtiment a été vraiment réalisé, donc il se trouve à proximité de la gare d'Épinal, a été vraiment réalisé dans un souci d'efficience énergétique, hein, avec la géothermie, c'est un bâtiment à énergie positive d'ailleurs, et avec aussi une production d'énergie, et production d'énergie qui aujourd'hui peut être, production d'électricité qui peut être aujourd'hui, qui sert aujourd'hui à alimenter différents bâtiments de la collectivité. Hein, que de mémoire, il doit avoir la BMI, etc., puisqu'on a la possibilité aujourd'hui de produire son énergie et alimenter des bâtiments de la même collectivité, même s'ils ne sont pas à proximité.
D'ailleurs, on peut faire ça aussi au niveau citoyen. Hein. Par exemple, il y a des communes qui utilisent une toiture d'église ou des toitures des ateliers municipaux. Ça peut être aussi des toitures de particuliers. Et on peut très bien se mettre ensemble. Et dans un certain rayon, la loi le permet en zone urbaine, dans un diamètre de 10 km, en zone rurale, 20 km. Mais donc, produire l'énergie et puis... utiliser le réseau électrique, hein, bien sûr, hein, et alimenter quelqu'un d'autre. Hein, et tout ça peut se faire à l'intérieur d'associations qui peuvent avoir différents statuts. Ça peut être des associations simples, mais ça peut être aussi des associations citoyennes. Hein, et là, il peut y avoir des aides à travers différentes... On a reçu d'ailleurs, il y a quelque temps, l'association ERCVM, Énergie Renouvelable Citoyenne, Vologne-Moselle. On les réinvitera à l'occasion. Encore une petite minute, Dominique.
Bon, je pense qu'au niveau du territoire, il y a bien sûr la commune, il y a les intercommunalités comme les communautés de communes et les communautés d'agglomération, mais il ne faut pas également oublier les syndicats mixtes qui gèrent pour ces collectivités des sujets spécifiques. Hein. Bon, le sujet le plus connu, ce sont les déchets, hein, et sur lequel dans les Vosges, on est quand même un département plutôt en avance sur le traitement des déchets. Je pourrais citer également les rivières, citer l'électricité, l'assainissement non collectif. Il y a beaucoup de syndicats mixtes qui vont gérer des problématiques environnementales beaucoup plus spécifiques. Donc il y a vraiment une action généralisée sur le territoire pour essayer de prendre en compte toutes les questions environnementales. Et donc le souhait que je peux émettre, c'est que au cours du que la nouvelle génération d'élus qui va arriver après ces élections, les prochaines élections municipales, soit encore plus sensibilisée à ces questions-là qu'elle l'est actuellement, alors qu'elle l'est déjà beaucoup. Hein. Je tiens à le souligner.
Voilà, effectivement, c'est les générations d'avant d'élus donc qui ont créé ces syndicats pour mettre en commun leurs efforts et leurs moyens pour pouvoir faire des choses intéressantes. Alors, on parlait tout à l'heure du fleurissement. Tu disais que c'était un sujet qui était un peu consensuel, mais pas toujours, parce qu'en fait, moi, j'ai connu une commune qui avait choisi de planter des plantes pluriannuelles, et en fait, ça a créé comme une polémique, parce qu'elles étaient bien sûr moins belles que les plantes qui arrivaient directement du fleuriste. Voilà. En tout cas, merci Dominique. C'est un peu court, 10 minutes, mais bon, c'est un peu le format de l'émission, puisqu'on va avoir d'autres intervenants. Merci Dominique, merci et bien. Puis bon courage pour le prochain mandat.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal. Faire les beaux. S'acheter de l'air en bar, remplir la balance. Quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses. Quelques baffes à prendre. La veille est pour demain. Des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir. Puisqu'il faut changer les choses.
L'émission avec la présence de membres des Shifters des Vosges, hein, du groupe vosgien des Shifters qui est plutôt basé à Épinal, n'est-ce pas? Donc Alexandra et David. Donc voilà, les Shifters ont fait une enquête auprès des maires concernant un petit peu cette préparation des élections municipales. Donc, je vais leur donner un peu la parole pour qu'ils nous racontent un petit peu, ben, peut-être qui ils sont rapidement et puis quel est un peu leur point de vue.
Donc, je suis David François, je suis le référent du groupe des Shifters dans les Vosges. Alors, les Shifters, c'est une association de bénévoles qui est nationale et qui appuie un groupe de réflexion qui s'appelle le Shift Project, lui qui est une petite association d'une trentaine de personnes basée à Paris et dont l'action consiste essentiellement à éclairer et à influencer le débat sur la transition énergétique. Et les grandes valeurs sur lesquelles on s'appuie, c'est une information de qualité, rigoureuse scientifiquement, fiable, vérifiable, apartisane. Et les activités essentielles du Shift Project, ça se traduit par la production de documents, de littérature scientifique, de rapports sur des grandes questions. Et donc, dans ce cadre-là, les shifters sont aussi le bras local pour faire remonter des informations du terrain, pour alimenter ces rapports-là, mais aussi les diffuser. Donc, je vais laisser passer la parole à Alexandra à présent.
Bonsoir à tous, Alexandra Terwal. Et oui, effectivement, donc cette association des shifters propose une information tout à fait fiable, et ça c'est intéressant et c'est très précieux en cette période où on entend beaucoup de choses dans les médias et parfois c'est de la désinformation. Et donc là, tous les chiffres, toutes les données utilisées sont ceux du GIEC, le groupe d'expertise intergouvernementale sur l'évolution du climat. Et donc ça c'est quand même particulièrement intéressant de savoir que tout ce dont on va parler lors de nos réunions, lors de nos conférences, sont toujours des données vérifiables et sûres. Voilà, et donc c'est ouvert à n'importe quelle personne ayant envie de nous rejoindre. Il suffit de se connecter au site des Shifters, et puis il y a un onglet Rejoindre le groupe local qui permet de voir qu'il y a de multiples groupes à l'échelle nationale et même internationale, et il y a 30 000 Shifters en tout. Donc voilà, c'est une bonne façon de s'informer. Et aussi de lutter peut-être contre l'éco-anxiété, puisque c'est fort appréciable de se retrouver en groupe, de voir que on est nombreux et qu'il y a beaucoup d'actions menées. C'est quand même voilà, un plus. Et puis donc c'est apolitique, ça veut dire qu'on ne parle pas de politique pendant nos réunions. Et la charte qui est la nôtre nous interdit notamment de manifester dans la rue. Donc vous ne verrez jamais lors des manifestations de banderoles des shifters, et c'est pour préserver une vraie neutralité.
On a déjà parlé du rôle du carbone, on a parlé du stockage du carbone par les forêts, dans les sols. Donc voilà, les shifters, c'est diffuser une information qui est vérifiée et puis vulgariser un certain nombre d'informations et donc proposer des solutions aussi par rapport à ce problème de carbone et de changement climatique.
Oui, donc nous on aborde effectivement la problématique du carbone et de l'énergie au travers de deux principales axes. L'un, c'est évidemment le changement climatique qui nous impacte tous au niveau local. On peut tout de suite, enfin, on peut directement sentir les effets et les conséquences, nous dans les Vosges par exemple, avec la forêt, etc. Mais aussi un deuxième, donc qui nous pousse forcément à réduire l'utilisation des énergies fossiles. Mais il y a une deuxième contrainte qui commence aussi à apparaître. Alors là, en plus, qui est d'autant plus d'actualité avec ce qui se passe en Iran notamment, c'est la disponibilité à un coût convenable de cette ressource fossile, qui d'une part par la réduction de la ressource disponible, plus les tensions géopolitiques. Est appelé à devenir quelque chose de plus en plus instable. Et donc c'est en fait c'est une deuxième bonne raison de s'en passer. Donc voilà, c'est vraiment ces deux contraintes-là, la contrainte changement climatique et la contrainte disponibilité souveraineté énergétique que le shift et les shifters souhaitent adresser vis-à-vis des énergies fossiles. Je disais que localement, on peut directement voir l'impact de nos du réchauffement climatique et donc de nos activités liées à la consommation d'énergie fossile. Alors je peux laisser Alexandra peut-être en évoquer quelques points.
Alors c'est vrai que les Vosges, étant dans la partie nord du territoire, sont quand même épargnées. Bon, nous sommes encore dans des températures tout à fait acceptables. Mais si on se projette à l'horizon 2050, on sait que les températures vont augmenter considérablement. Alors, les premiers indices, nous les avons déjà. En 2023, nous avons eu déjà des feux de forêt assez impressionnants. Nous n'avions jamais connu ça, avec 30 hectares brûlés au mois de juin. C'était dans le secteur de Saint-Dié, sur la commune de Bois-de-Champ. Et c'est la première fois que des moyens exceptionnels avec des hélicoptères bombardiers avaient été utilisés. En août 2024, nous avons eu un épisode pluvieux extrêmement violent autour de Dompère, de Damas et Bétainier, avec vraiment des communes totalement immergées. Et voilà, donc ces phénomènes violents sont amenés à se répéter, bien sûr, ce sont les premiers signes et on attend vers 2050 des épisodes plus nombreux et plus intenses. Au niveau des températures, on sait que on va passer dans les Vosges 13 nuits tropicales par an. Une nuit tropicale, c'est une nuit où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés. Et ça paraît peu, mais c'est quand même déjà difficile à supporter. Ça veut dire qu'en journée, ça sera plus difficile de respirer, plus difficile de faire ses activités habituelles. Bien sûr, on est en dessous du nombre de nuits tropicales dans la capitale, hein, qui sera entre 30 et 40 nuits par an, ou du pourtour méditerranéen, qui sera à 80 nuits par an, où là, ce sera vraiment plus difficile à vivre. Voilà. Donc, bien sûr, on se pose la question, que peut-on faire ? Y a-t-il des leviers ? Y a-t-il des moyens d'action à notre échelle ? Alors, bien sûr, nous les connaissons déjà. C'est presque inutile de le redire. Hein. Bien sûr, dans notre façon de nous déplacer, nous savons qu'en marchant, en utilisant le vélo au maximum, tout ceci est très favorable pour nous. Bien sûr.
Oui, donc la mobilité, effectivement, c'est une compétence des communes à travers les plans de mobilité. En fait, ça dépend tout à fait. Donc, les voies communales à l'intérieur de l'agglomération, même les voies départementales à l'intérieur de l'agglomération, donc sont de la compétence du maire, en partie en tout cas. Et donc, il appartient à la commune de réfléchir. Est-ce que, par exemple, pour faire de la place au vélo, il faut mettre des circulations en sens unique ? Est-ce que, quelle est la place de la voiture, la place des stationnements ? C'est en débat, par exemple, dans la ville d'Épinal, à l'occasion de ces élections. C'est un moyen d'action de la commune, y compris, par exemple, l'organisation du ramassage scolaire. Voilà, je repasse la parole à David.
Oui, tout à fait. C'est un moyen d'action qui est important et on peut d'ailleurs, pour justifier les efforts à mettre sur ces secteurs, dire que sur le territoire vosgien, donc qui est quand même un territoire plutôt rural, on va dire qu'il y a à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre du territoire, donc qui alimentent ce réchauffement climatique, qui sont dues au transport. En gros, hein, un Vosgien moyen qui va faire 15 000 km de voiture par an, ce qui n'est pas énorme, et ben en fait, il va déjà émettre 2 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et 2 tonnes de CO2, c'est le maximum qu'on aurait le droit d'émettre pour être neutre en carbone. C'est-à-dire que c'est le maximum que le territoire peut absorber. Tout ce qu'on émet au-delà va participer au réchauffement climatique. Et on comprend bien que si jamais on émet déjà ce budget-là juste en nous déplaçant, bah ça nous laisse pas grand-chose d'autre de marge disponible. Donc c'est vraiment un des premiers, finalement, impacts qu'on peut avoir, un des premiers leviers ouais, sur lesquels on peut s'appuyer. Un deuxième levier sur le territoire qui est quasiment aussi important, c'est l'agriculture. L'agriculture au travers des émissions de gaz à effet de serre liées à l'élevage des bovins essentiellement, le méthane, l'importation du soja, etc. et les engrais azotés. Donc ça c'est un deuxième levier également, et puis on a l'industrie un petit peu après. Le résidentiel lui c'est une dizaine de pourcents, donc le résidentiel c'est chauffage au gaz essentiellement, gaz et fuel. Donc voilà, si on veut un petit peu se donner une hiérarchie sur quel levier actionner, le premier ça va être le transport routier, l'agriculture et l'industrie. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut arrêter de se déplacer, arrêter de consommer de la viande, arrêter nos usines, mais c'est qu'il faut les transformer et puis essayer par ailleurs de tirer parti de cette transformation et essayer de voir ça aussi comme une opportunité. Localement, par exemple, on peut donner des exemples d'industries qui ont réussi à tirer parti de la transition énergétique. Ça va être Moustache, par exemple, hein, qui s'est largement développé pour développer des véhicules, enfin des petits véhicules électriques, donc des vélos électriques, qui sont une vraie alternative, en tout cas en ville, au transport, voilà, à la voiture, hein, transport automobile, et qui emploie un certain nombre de personnes sur le territoire. En autre exemple, on a l'isolation bois qui s'est développée au sein à Golbe, au sein des usines Pavatex, qui produisent un isolant. Donc ça va aller sur ça peut être ciblé pour réduire les émissions du résidentiel, etc., etc. La régie maraîchère d'Épinal, qui finalement est une relocalisation de l'industrie agroalimentaire, on va dire presque, puisque ça peut alimenter les écoles. En réduisant très très fortement l'impact finalement de l'agriculture, puisqu'il y a aussi tout le transport des aliments dans l'agriculture. Donc voilà, c'est plein de petites actions qui vont réduire notre bilan de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, sans pour autant compromettre l'activité économique et le bien-être des habitants du territoire.
Je rebondis un petit peu sur cette histoire d'alimentation, parce qu'effectivement, la ville d'Épinal a acheté des terrains pour lesquelles elle a une destination qui est l'alimentation des écoliers et peut-être des personnes âgées, donc de la ville d'Épinal. En fait, un des problèmes qui pour moi est très important par rapport aux communes, c'est la maîtrise du foncier. En fait, dans beaucoup de communes, finalement, les terres agricoles sont déjà ou vont devenir à la suite des successions agricoles, propriétés d'agriculteurs qui sont même pas dans la commune et qui ont un mode de culture qui est souvent intensif. Et il est important que les communes réfléchissent, surtout quand un agriculteur de la commune va partir en retraite, eh bien, est-ce qu'on peut se rendre maître d'une partie de ces terres agricoles pour ensuite les confier à des agriculteurs, des maraîchers qui auront un mode d'agriculture qui soit compatible et qui permette l'alimentation des habitants au plus proche.
Alors sur l'agriculture, en plus de ça, on comprend bien que les agriculteurs font aussi face au changement climatique parce que ça impacte directement leur revenu par le rendement de leur culture. Donc ils sont à la fois, j'allais dire, la cause et la... Enfin, ils sont à la fois à la base et ils en tirent, enfin, ils en subissent les conséquences. Donc eux, ils ont typiquement une profession et une activité qui doit changer, contraint et forcé, parce que le climat change et que du coup les modes de fonctionnement d'antan ne vont plus être valables et sont appelés à disparaître. Et le Shift Project, par exemple, a construit un grand rapport sur l'agriculture en questionnant à peu près 8000 agriculteurs en France. Donc ça, c'est des groupes, des shifters, en fait, qui sont allés taper aux portes des agriculteurs pour leur demander leur avis. Et ce qui en est ressorti, c'est que finalement, les agriculteurs sont quand même conscients du risque, conscients des changements à opérer, et que leur crainte principale, c'est surtout lié à leur activité économique, c'est-à-dire qu'ils veulent conserver un revenu. Mais ce n'est pas incompatible avec le changement, finalement. Si on relocalise, si on revalorise une activité agricole pérenne, responsable, etc., et qu'on lui donne la valeur qu'elle doit avoir, eh bien, on se retrouve avec finalement une filière agricole qui est très, très vertueuse. La régie maraîchère d'Épinal, par exemple, c'est uniquement des produits bio. Le coût du repas n'est pas supérieur à un coût de repas d'une filière conventionnelle avec des produits qui ne sont pas bio, par la relocalisation, par des circuits courts, etc., etc.
Oui, l'INRA de Mirecourt a beaucoup travaillé sur le modèle agricole qui pourrait devenir finalement le modèle qui existait un petit peu autrefois avec une polyculture, avec effectivement arrêter d'importer des protéines pour les animaux de l'autre bout de la planète. Hein. Après, il y a moyen de trouver un équilibre dans une ferme. Hein. Alors, c'est un autre modèle de développement. Mais effectivement, les agriculteurs qui travaillent avec des circuits courts s'y retrouvent et les consommateurs s'y retrouvent aussi. Ils sont prêts à payer parfois un petit peu plus cher, mais surtout sur la partie qui revient à l'agriculteur. Parce que les autres circuits, ben, y a beaucoup de parties du prix qui revient aux transformateurs, aux transporteurs, etc.
Alors c'est vrai que la question alimentaire fait effectivement partie des leviers que nous avons pour améliorer donc l'environnement, parce qu'on sait que finalement, trois fois par jour, on a le pouvoir d'agir, on a le pouvoir en choisissant ce qu'on met dans notre assiette, et ça va parfois du simple au sixième, septième niveau en termes de consommation carbonée. Donc on sait qu'il est conseillé de manger moins de viande et notamment de moins manger de viande rouge parce que elle est très consommatrice en eau et indirectement elle produit du méthane, elle produit beaucoup de CO2 par les trajets, les transports de la nourriture, le transport du bétail, les abattoirs, et etc. Et donc à titre de comparaison, donc la viande bovine implique 5 fois plus de CO2 que la volaille. Donc effectivement là on a par exemple un levier possible. Et puis tout ce qui est, comme on l'a dit, circuit court est souvent synonyme de filière de qualité. Et donc tout le monde est gagnant, l'agriculteur, le territoire, les personnes, les individuels, les particuliers au niveau de leur santé. Et on a l'impression qu'effectivement, avec quelques efforts, on peut inverser le cercle vicieux en cercle vertueux.
Voilà, il ne s'agit pas de ne plus manger de viande du tout. Certains peuvent faire le choix. Après, donc, dans l'émission précédente, on a parlé du stockage de carbone dans les prairies, ce qui laisse à penser, d'après l'INRA de Mirecourt, qu'il y a une place pour de l'élevage bovin, mais réduite par rapport à la place actuelle, et surtout un mode d'alimentation de ces bovins qui soit différent, qui évite toutes les émissions de carbone liées au transport de ce qui vient de l'autre bout de la planète, et qui aussi un régime différent permettrait aussi une diminution des émissions de méthane de ces bovins.
Oui, ça me permet de rebondir d'ailleurs, parce qu'on parle là de stockage de carbone. Ça, c'est une autre caractéristique de notre territoire, notamment les Hauts-de-Vosges. C'est la couverture de notre territoire par des forêts, essentiellement des forêts de résineux, beaucoup dans les Hauts-de-Vosges, de feuillus un petit peu plus en plaine. Mais on a un énorme potentiel de stockage de carbone, mais également un gros potentiel d'exploitation de cette ressource-là pour des activités qui vont dans le sens de la décarbonation de notre, notamment de la construction. Aujourd'hui, utiliser du bois dans la construction à la place du béton, c'est clairement faire le choix de réduire les émissions de CO2 liées à la construction. Le béton, on n'en produit pas spécialement sur le territoire. Du bois, par contre, si on a des filières de qualité, on est capable d'avoir du bois du bois d'œuvre pour les maisons en ossature bois, les charpentes, etc., etc. Et en plus de ça, c'est un bois qui nous intéresse puisque c'est un bois qui va stocker le carbone longtemps. Ce qui n'est pas le cas du bois qu'on va brûler immédiatement, qui lui, en le brûlant, va recracher immédiatement son carbone. Donc ça, c'est la chose sur laquelle il faut faire un petit peu attention. Brûler du bois, ça reste émettre du carbone. Certes, il sera recapté par le bois qui est en train de pousser, mais le bois qui est en train de pousser, il va le recapter dans 30 ans, 40 ans. Et aujourd'hui, plus on attend, plus on rejette de carbone aujourd'hui rapidement, et plus on accentue les effets du réchauffement climatique. L'autre chose qu'on a pu constater aussi, c'est que les sécheresses ayant un impact immédiat sur les arbres, ils poussent les sécheresses, les hautes températures réduisant la quantité d'eau qu'il y a autour des racines, les arbres poussent moins et en fait stockent beaucoup moins de carbone que prévu. Les années de sécheresse, les arbres stockent 60% de moins de carbone que ce qu'on avait compté. Donc ça, c'est aussi un signal fort pour se dire, ok, on a des très beaux puits de carbone, mais attention, ils sont fragiles. Il faut y faire un petit peu attention avec les utiliser avec parcimonie, peut-être mettre des essences qui sont moins vulnérables, etc., etc.
Oui, dans l'émission qu'on avait fait avec Hubert Boiry, on a bien expliqué qu'effectivement, une forêt en bonne santé est capable de capter du carbone. Par contre, un arbre qui n'est pas en bonne santé parce qu'il souffre en particulier de la chaleur, à partir d'une certaine température, il coupe sa circulation, il arrête sa croissance, du coup il ne stocke plus de carbone, et au contraire il en émet par sa respiration. Hein. Donc du coup, effectivement, le réservoir de carbone que l'État français imaginait à travers les forêts françaises qui sont importantes, ben, finalement il est un peu bancal. Hein. Donc des essences adaptées, des modes de culture, voilà. Après, il y a aussi la place de l'arbre dans l'agroforesterie, on en a déjà parlé, voilà.
Oui, bah, et puis bon, toujours sur la végétalisation, les puits de carbone potentiels, il y a aussi la végétalisation et le verdissement, on va dire, des villes, qui d'une part permettent d'augmenter la quantité de carbone stockée localement, même si ça peut être marginal, puisqu'on va pas planter des hectares de forêt sur la ville d'Épinal, par exemple. Par contre, ça permet de réduire les îlots de chaleur, en fait, de créer des zones ombragées et de rendre les villes naturellement plus agréables, tout simplement parce que de toute façon, le réchauffement climatique, on est dedans, il va se poursuivre. Ça, c'est inéluctable. La quantité de CO2 qu'on a déjà mis dans l'atmosphère ne va pas disparaître, malheureusement. Donc, on va ne faire que l'accentuer au fur et à mesure de nos actions. Donc, les températures vont continuer d'augmenter, ça, c'est clair. Et il faut aussi penser à s'adapter, à adapter le cœur de nos villes, à adapter nos fonctionnements. Donc ça va passer par de la végétalisation, des cours d'école, là où les gens sont dehors. Et là, le co-bénéfice qu'on peut avoir de ça, c'est aussi que ça rend les villes et les environnements plus agréables à vivre de manière générale. On est quand même mieux à l'ombre, avec les oiseaux dans les arbres, dans les villes, que sous les lampadaires.
Effectivement, donc les écoles sont une des compétences très importantes des communes, et un poste de travaux et de gains possibles à travers effectivement l'isolation des bâtiments communaux, le chauffage des bâtiments communaux, et donc le confort des élèves, donc avec les végétalisations des cours. Il y a des projets qui sont possibles, il y a aussi des écoles qui ont des aires terrestres éducatives qui vont faire classe dans la forêt, qui apprennent donc un petit peu autrement. Voilà, donc il y a des leviers possibles, y compris, donc, comme on disait tout à l'heure, au niveau de l'alimentation, la cantine, et comment les élèves se rendent à l'école. Est-ce qu'on va avoir un balai de voiture garé devant l'école, ou est-ce que les enfants ont la possibilité d'aller en vélo avec leurs parents? Il y a des communes qui mettent en place aussi un transport avec des véhicules de genre vélo qui font du transport en commun, voilà, il y a des solutions.
Et la question des écoles précisément est vraiment intéressante. La ville de Paris est en train de travailler actuellement sur un projet qui réutiliserait les écoles lorsque c'est terminé, lorsque les cours sont finis, donc le week-end et pendant les congés scolaires, à la disposition des gens qui habitent en appartement et qui souffriront de la chaleur en été particulièrement. Et donc on se rend compte que effectivement quand on commence à raisonner dans une logique qui protège l'environnement, on a des effets multiples et des bénéfices indirects qui peuvent servir à différents niveaux, à une échelle différente de la société. Donc on s'en rend compte là dans tout ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire plus on va circuler à pied ou à vélo et plus il y aura de pistes cyclables, plus on achètera local et plus on aidera nos agriculteurs, et plus les écoles donc seront tournées vers la fraîcheur, etc. Et ça pourra aider aussi non seulement les enfants mais d'autres personnes, des personnes âgées, etc. Donc voilà, si on touche à un de ces domaines, finalement on se rend compte que d'autres secteurs sont touchés dans le bon sens et qu'on peut inverser les choses vers une spirale positive.
Voilà, tout à l'heure on parlait de la forêt, Épinal est quand même une commune très forestière, et dans beaucoup de communes, en particulier dans les Vosges, donc la gestion de la forêt, c'est un revenu très important pour les communes, et voilà, alors On voit quand même beaucoup d'écoles qui plantent des arbres. En tout cas, il y a beaucoup d'endroits dans les villes et les communes où il y a de la place pour planter des arbres. Ça fait partie de la végétalisation. Et cette végétalisation diminue un petit peu la surface imperméable et permet effectivement l'écoulement des eaux en profondeur, l'infiltration des eaux, parce que effectivement le changement climatique, c'est du réchauffement avec des périodes de sécheresse, mais c'est aussi dans notre partie du monde une augmentation des pluies, de la pluviométrie, avec des épisodes, comme l'a dit Alexandra tout à l'heure, donc des épisodes pluvieux très importants, et c'est surtout la grande variabilité, donc avec des grandes sécheresses et des grandes pluies, avec éventuellement des inondations, etc.
Oui, c'est ça, c'est les événements extrêmes en fait qui vont se multiplier et qui vont grossir en intensité. Enfin, se multiplier, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, grossir en intensité, c'est une quasi-certitude. Et on commence d'ailleurs à les voir et on mesure tout ce que l'artificialisation à 100%, la super performance finalement de nos villes est finalement extrêmement fragile. Il suffit qu'il pleuve entre guillemets un petit peu fort, et ce sera le cas dans les années à venir, pour que la route se soulève, pour qu'on ait des réseaux d'eau pluviale qui soient saturés, qu'on ait des maisons qui soient inondées relativement rapidement. Donc c'est aussi tout repenser l'urbanisme au travers du filtre de ces événements extrêmes qui vont se multiplier, et donc à chaque fois reconsidérer les grands projets en se disant, attention, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que ça va vraiment résister à un épisode pluvial extrême, à une canicule extrême? Et donc voilà, parfois repenser certaines infrastructures.
La plupart des communes ont une commission environnement. Il est intéressant que cette commission d'environnement ait un regard sur tous les projets, parce que tous les projets peuvent avoir des conséquences sur l'environnement et peuvent contribuer à une amélioration de la stratégie environnementale des communes. Par exemple, comment gérer les eaux pluviales? Alors les eaux pluviales, c'est un problème qui est complètement communal, le fait de mettre des puits perdus un peu partout permet l'infiltration des eaux pluviales et permet d'éviter que les eaux coulent et aillent inonder les gens qui sont en aval. Donc ça, c'est une compétence communale qui est très importante.
Bon, oui, pour conclure, donc la décarbonation et les grands challenges, les grands défis auxquels on va devoir faire face, on a l'impression que c'est quelque chose qui est c'est un mur, hein, c'est quelque chose qui va être extrêmement difficile à surmonter. En réalité, on peut aussi voir ça comme étant un moyen de différencier notre ville. Épinal, par exemple, ou des villes de taille un petit peu plus raisonnable, sont des villes qui permettent d'avoir notamment des agriculteurs et des fermes qui alimentent en produits de qualité une population relativement raisonnable. Donc c'est des villes à taille raisonnable finalement où le circuit court a du sens, où il est possible de s'évader de la ville à vélo par exemple, ce qui est un petit peu plus difficile lorsque vous êtes dans une grande métropole. Il est possible de vivre quasiment à vélo ou à pied dans les centres urbains de petite taille. On bénéficie d'un environnement qui est extrêmement boisé également, qui est appelé à jouer un rôle dans la transition énergétique, etc. Et puis aussi, on parlait tout à l'heure de double contrainte, là on a parlé beaucoup de réchauffement climatique, la contrainte de la souveraineté, de la disponibilité de la ressource, c'est aussi un problème pour toute une frange de la population qui a des revenus pas illimités, et donc qui risque de prendre de plein fouet une augmentation du prix du gaz, comme on a pu le vivre lors de l'invasion de l'Ukraine, une augmentation du prix du pétrole lorsque ça va nous arriver, parce que ça va très certainement nous arriver, et qui est dépendante pourtant de gaz pour se chauffer ou de pétrole pour se déplacer. Donc s'affranchir de ces dépendances-là, c'est aussi stratégiquement un choix à faire de façon le plus tôt possible pour le plus grand nombre, pour tous ceux qui en sont capables, pour justement essayer de pérenniser notre mode de vie finalement.
Voilà, merci Alexandra et David. Pour les shifters, tu veux rajouter autre chose, Alexandra? Normalement, on arrive au terme de la demi-heure qui vous était consacrée.
Merci à tous.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. J'aurais des bornes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. J'aurais des bornes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Un soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Je me ferais peut-être agriculteur.
Voilà, on poursuit l'émission avec Laurent, qui a été élu municipal dans un village et qui va pouvoir se présenter, puis nous parler un petit peu de son action, peut-être ses actions, et peut-être ce qu'il aurait aimé faire, mais il ne se représente pas, mais il pourra toujours agir en tant que citoyen engagé, parce que effectivement, c'est qu'est-ce que peuvent faire les élus, mais qu'est-ce que peuvent faire les citoyens aussi en soutien des élus et en stimulation des élus. La parole est à toi, Laurent.
Merci, Jean-Joseph. Donc, je suis Laurent Jacquot, je suis adjoint à la mairie de Cercœur, encore pour quelques jours. Donc, Cercœur, c'est un petit village sur l'axe Épinal-Rambervillers de 230 habitants. Voilà, j'ai été élu adjoint en mars 2020, dans un contexte un petit peu particulier, puisque c'était le contexte du Covid. Voilà, et nous avons débuté notre mandat en juillet 2020. Mon idée au départ, c'était vraiment de pouvoir mettre en lien un petit peu mes idées, mes convictions dans l'action. Donc moi je suis enseignant à l'école d'horticulture et de paysage de Revillochaine. Donc j'ai une certaine sensibilité par rapport à différentes problématiques autour de l'environnement, du cadre de vie. Je suis aussi engagé dans d'autres associations, alors par exemple l'énergie citoyenne, énergie renouvelable citoyenne Volonne-Moselle, voilà, tout à fait, à Éloi, mais aussi j'étais militant contre la décharge de Vihancourt, et je le suis toujours d'ailleurs, par exemple, voilà. Mais j'interviens aussi dans des associations d'animation. Quand on arrive en tant qu'élu, il faut se positionner assez rapidement dans des commissions, dans des groupes de travail et faire le lien entre ses idées, ses convictions et ce qui est faisable techniquement. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est ce que j'ai essayé de faire et de m'impliquer pour essayer d'apporter des réponses ou un partage vers mes propres sensibilités. Donc, parmi les actions que j'ai pu mener, par exemple, le cadre de vie dans le village. Donc, moi, j'étais pas adjoint au cadre de vie, mais l'adjoint s'est détaché de sa délégation et, par solidarité avec Madame la Maire, j'ai repris cette partie-là, en essayant de changer un petit peu complètement l'orientation, passer d'un mode de gestion classique horticole. Très, très standard, on va dire, du fleurissement répétitif, des tontes régulières, faut le carré et le propre, à passer à une gestion différenciée qui laisse place à la nature, à la remise en place de biodiversité, avec suppression de nombreux massifs avec les plantes annuelles ou bisannuelles, pour passer avec des vivaces, des plantes aromatiques à disposition des habitants, une forte réduction des espaces tondus pour laisser des espaces en fauche tardive, la suppression totale de tous les produits ou engrais de synthèse, alors avec des inconvénients, on remplace... au cimetière, par exemple, qui est un sujet toujours sensible dans les communes, c'est l'huile de coude et la bonne volonté qui ont remplacé d'autres substances, mais ce sont des choix. Voilà, suppression de l'arrosage des plantes au cimetière par la mise en place d'une cuve de récupération d'eau de pluie, par exemple, et arrêter d'arroser les plantes avec de l'eau potable, le tri des déchets, notamment aussi au cimetière, entre les déchets verts, les emballages, Donc, pour essayer d'avoir, je dirais, un ensemble, une certaine cohérence, ces actions au niveau du cadre de vie, elles ont été reconnues, puisque la commune a été labellisée dans le cadre du dispositif commune nature, elle a été labellisée 3 libellules. Donc en 4 ans, on a réussi à avoir quelque chose qui est reconnu et vu aussi par nos partenaires, nos financeurs aussi dans ce type d'action. En tant qu'élu, j'ai aussi, par exemple, choisi et un petit peu encouragé le remplacement, par exemple, de notre chaudière dans le bâtiment mairie. On avait une chaudière fioul qui consommait 4000 litres de fioul tous les ans, avec la mairie et un logement communal, et par une chaudière à pellet qui nous a permis de diviser la facture presque par deux. Encore une action concrète où on peut faire des choses différentes à notre propre échelle et à notre échelle de décision.
Oui, et l'environnement ne coûte pas forcément. Hein. Effectivement, l'environnement peut être source d'économie aussi. Hein. Donc effectivement, par exemple, les plantes qu'on remplace tous les ans, si du coup on n'a pas besoin de les remplacer, ben c'est un coût qui est moindre. Après, l'esthétique est différente, hein, c'est sûr. Donc il faut s'habituer un petit peu et bien expliquer aux citoyens qui a ses habitudes et qui n'aime pas toujours en changer. Hein. Voilà.
Tout à fait. C'est vrai que l'un des points les plus compliqués, c'est l'acceptation. Et ça passe par une communication, une répétition, et puis aussi peut-être aussi par une exemplarité. Voilà. Nous avons cité l'énergie précédemment pour chauffer le bâtiment communal, mais en même temps, nous avons aussi remplacé les luminaires par des éclairages LED, mis en place la coupure nocturne, voilà, pour essayer d'être aussi un petit peu cohérent. Et si on raisonne juste sur la partie énergétique, quand on sait que l'inflation sur cette partie-là, elle a été de plus de 20% sur cette période-là, on a réduit la facture énergétique de la commune de 25%. Donc je pense que c'est tout à fait vrai. On peut faire bien, aussi bien, et sans dépenser plus d'argent. Voilà. Donc, autre levier d'action, nous sommes en réflexion, on est en projet pour un aménagement global du centre-village avec une thématique qui est végétalisation au service du cadre de vie et de la santé des habitants, voilà, avec des imperméabilisations très importantes, plantation de beaucoup d'arbres, de massifs, d'arbustes, voilà. Alors ça aussi, ça bouleverse un peu les habitudes, les volontés, la réduction des voies de circulation pour laisser plus de place aussi aux piétons, aux modes de déplacement plus respectueux, plus doux, au partage justement de la voie. Et je pense que nous avons proposer un projet qui est vraiment très intéressant, qui va dans le sens, comme ça a pu déjà être dit, sur les problématiques d'eau pluviale, sur les problématiques d'îlots de chaleur urbains. Donc, encore un point sur lequel, à l'échelle d'une petite commune, on a aussi la capacité d'agir. Voilà. Nous avons travaillé avec la com d'agglomération, puisque c'est elle qui est compétente, la communauté d'agglomération d'Épinal. Au niveau de l'assainissement, il n'y a pas d'assainissement dans le village de Cercœur. Hein, c'est soit certains petits assainissements individuels, ou soit malheureusement du tout au d'urbion, entre guillemets, puisque c'est le cours d'eau qui traverse Cercœur. Et là, on a beaucoup aussi travaillé pour essayer de faire avancer ce dossier-là, pour avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent et de limiter notre impact sur notre environnement qui est assez désastreux à ce niveau-là. Donc, alors, c'est du technique, c'est compliqué parce que ça touche beaucoup de problèmes, mais aussi, c'est quand même notre santé, c'est notre cadre de vie et c'est aussi le patrimoine qui est transmissible pour la suite, quoi. Donc, ça montre bien qu'il y a il y a une nécessité d'agir en responsabilité. C'est peut-être aussi ça la difficulté, c'est que quand on est le citoyen lambda, même dans un petit village, hein, on a la critique des fois facile, on a le verbe fort, mais quand on est en situation d'action, on est dans une position un peu différente et y a certains choix qui sont pas toujours bien perçus, mais quand on est en action, il faut aussi choisir, il faut aussi lancer ses idées et les mettre en application. Voilà, ce sont quelques exemples, mais aussi par la mise en place aussi d'activités à destination du public, des animations telles que les Ripper Café, Nettoyons la nature, des ateliers fresques du climat pour aussi jouer sur la sensibilisation et amener le maximum de monde vers un état d'esprit un petit peu différent par rapport à une vue technique ou technocratique qu'on pourrait envisager dans la gestion d'une commune.
Voilà, merci beaucoup Laurent. Donc dans le rôle des communes, effectivement, quand les communes ont la chance d'avoir une école, c'est un vecteur transgénérationnel. C'est important de faire travailler les élèves au contact des personnes âgées et de l'ensemble de la population. C'est important de partager les projets. Il faut que ce soit des projets partagés par toute la population et portés par tous. Voilà, donc Laurent, si c'est bon pour toi. Merci. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. Bonne soirée à tous et à une prochaine fois. Merci à tous les intervenants.
corps je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere flotter, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire.
Voilà, en conclusion de cette émission consacrée au rôle des élus municipaux, je voulais faire une petite digression, si on veut, sur les vins d'honneur qui sont organisés régulièrement par les élus municipaux. Si ces vins d'honneur pouvaient éviter de finalement alcooliser des gens qui, pour la plupart, vont prendre la voiture en sortant, ce serait pas mal. Donc, au moins qu'il y ait autant de boissons non alcoolisées que de boissons alcoolisées. Et en plus, donc, privilégier les produits locaux. Les produits locaux, ça peut être aussi au niveau des boissons, plutôt que d'aller chercher des boissons industrielles, des jus de fruits produits localement. Pourquoi pas aussi au niveau des vins pétillants, etc., qu'on peut trouver chez différents producteurs vosgiens. Hein. Et puis, au lieu d'acheter de la nourriture industrielle, genre apéritif, trop salé, etc., pourquoi pas s'adresser aux artisans, boulangers, pâtissiers locaux qui fabriquent des très bonnes choses. Voilà, donc merci de votre écoute et à une prochaine fois pour La Parole est à vous. Merci Lou pour la technique. Au revoir, bonne soirée.